Pour notre méditation de ce dimanche, nous allons lire le texte dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 1, versets 21 à 28. L'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 à 28, où il est question Jésus qui chassa le démon à Capernaum. Au nom de Jésus. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? » Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa rencontre se répandit aussitôt, sa renommée, pardon, se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Chers amis, face à ce genre de texte qui parle du diable, ça pourrait déranger certaines personnes. Certains, pour ne pas dire une grande majorité, de théologiens classiques, de pasteurs dans le milieu réformé qui pensent que le diable n'est pas un être personnifié, que le diable n'existe pas, c'est juste un mythe qu'on a créé au Moyen-Âge pour faire peur aux chrétiens. Pour eux, le diable, c'est juste une attitude, un comportement, une attitude à l'opposé du bien, avec cette formule classique qu'on nous a rabâchée, le bien et le mal, le yin et le yang, ainsi de suite. Non, le texte est clair, le diable existe. Mais si le texte est aussi plus clair, comment expliquer alors, si on dit que ce n'est pas un être personnifié, les versets 24 et 25 ? Je vais relire ces passages. Le démoniaque qui parle, le possédé. « Que veux-tu, Jésus de Nazareth ? Est-ce que tu es-tu venu pour nous détruire ?» Il ne dit pas « Es-tu venu pour me détruire ?» Ça veut dire, s'il dit « Es-tu venu pour me détruire ?» c'est la personne qui parle. Mais ce sont les esprits qui ont lui qui disaient « Es-tu venu pour nous détruire ?» Et je sais bien qui tu es. Regardez bien. « Celui qui est saint. » Rappelez-vous, saint, 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 kadosh, 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 dans le temple où Ésaïe avait vu l'Éternel. Quand il dit « tu es le saint », tu es l'Éternel. Et Jésus parla sévèrement à l'esprit impur, il dit pas, Jésus parla sévèrement au possédé, en lui disant « tais-toi, sors de cet homme ». On peut tordre le texte comme on le veut, avec des interprétations bancales et tout, mais on ne peut pas réexpliquer ce que Jésus a déjà dit clairement. Le mauvais esprit a reconnu Jésus et surtout le but de sa mission. On voit bien que Jésus, s'il est venu dans ce monde à travers ses paroles du possédé, ce n'est pas juste pour faire des miracles ou se balader. Il est venu pour livrer une bataille, un combat. Et là, on voit bien que la bataille, elle est déclarée entre le diable et le Fils de Dieu. Analysons un peu ce que le diable a dit. Je ne vais pas faire d'éloge du mal, mais quand même, à travers ces paroles, il y a certaines choses qu'il faudrait comprendre. Es-tu venu pour nous détruire ? Ensuite, il dit, tu es celui qui est saint, envoyé de Dieu. Rien que cette phrase. Et comme j'ai dit précédemment, Jésus est venu pour détruire le diable. En d'autres termes, c'est comme s'il voulait dire que Jésus est venu pour en découdre. Et non seulement pour en découdre, mais pour en finir complètement sur l'autorité du mal. Si on approfondit encore un peu plus cette parole prononcée par le diable, c'est comme s'il connaissait vraiment l'ordre de mission de Jésus. Tu es venu pour ce que Dieu avait promis. Et c'est quand Dieu avait promis cela ? Genèse 3,15. Qu'est-ce qui est dit dans Genèse 3,15 ? La descendance de la femme t'écrasera la tête. Donc il sait bien, voilà, le temps de Dieu est arrivé. Ses jours sont comptés. Et si nous consultons les Écritures du Nouveau Testament, où est-ce qu'on pourrait trouver une référence qui parle de bataille entre Christ et Satan ? Dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 10, que je vais lire. « Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et Satan. » Celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères. » Voilà le combat. Ce combat a été déjà annoncé dès le début de l'histoire de l'homme. Genèse 3,15. « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme. » Hostilité. « Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Et donc, ça explique tout. Dès le départ, entre Jésus et Satan, c'est la guerre déclarée. Est ouverte. Et j'aime bien insister sur cette expression, la guerre, elle est déclarée. Aucune pitié dans les deux camps. Et Paul aussi avait dit, quelle communion entre la lumière et les ténèbres, quel accord entre le Christ et Bélial, il n'y a aucun point commun. Il n'y a pas de consensus, ni chaud ni froid, lumière ou ténèbres. À toi de choisir ton camp. Soit tu es pour le Christ, soit tu es le soldat du Satan. Il n'y a pas de neutre. Les gens disent, oui, mais moi je suis neutre, je n'ai pas de Dieu. Désolé, il n'y a que deux camps. Si tu ne fais pas partie du camp de Christ, forcément, tu es contre lui. Je suis désolé. Et Jésus lui-même avait préparé ses disciples. Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. « Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. » Donc ceux qui sont avec le Christ, ils auront ce pouvoir sur le mal. Mais si tu n'es pas en Christ, tu peux être la victime du mal. Et je vous cite toutes ces références bibliques pour vous rendre conscient qu'il y a vraiment de l'hostilité entre le Christ et le mal ici grand thème, le mal personnifié. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, loin de moi de faire l'éloge de l'adversaire, mais le fait de nier son existence et ses malversations, c'est faire d'acte d'imprudence. J'ai bien aimé une image, un de J'étais encore dans les clubs de jeunes, on va dire, groupe de jeunes de l'église où j'étais encore, tout jeune. Et le pasteur nous avait donné une image du diable. Il dit, le diable, c'est comme un chien méchant attaché à un tronc d'arbre. Le chien, il est limité, il ne peut pas te mordre tant que tu ne t'approches pas de lui. Et il est limité avec la corde. Mais si tu t'approches, alors là, tu vas connaître ce que c'est qu'un chien méchant. Il avait aussi utilisé une autre image qui était encore plus drôle, mais ça nous a fait bien comprendre les choses. Il disait, je le compare aussi comme un chien méchant qui aboie avec... Ça fait peur quand tu l'entends aboyer. Mais ce chien-là, il n'avait plus de dents. C'est-à-dire que le diable, tout son pouvoir, le Christ l'a déjà écrasé. Mais par contre, il intimide toujours. Et l'intimidation est toujours là. Et donc ceux qui se font intimider par lui, forcément, est sous son emprise. En tenant compte du texte, ce qui est étonnant, Jésus n'avait même pas besoin de faire une séance d'exorcisme. La dynamique textuelle semble faire un lien, regardez bien, entre son enseignement et la réaction du possédé. Relisons les versets 22 et 23. Je vais relire les versets 22 et 23. Ils étaient frappés de sa doctrine, c'est-à-dire ceux qui étaient présents, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Étonnant, tout à coup, on dirait l'auteur saute, il parle d'enseignement et tout à coup, paf, il y a un gars qui réagit dans l'assemblée. Regardez bien le parallélisme utilisé par Marc, ici sur la reconnaissance. Les gens reconnaissaient que Jésus avait une autorité et le diable aussi avait reconnu que Jésus a une autorité. Donc la reconnaissance du diable de l'autorité de Jésus et la reconnaissance de la foule que les scribes n'ont pas d'autorité dans leur enseignement par rapport à Jésus. Mais ce qui est frappant dans cette narration textuelle, pendant que Jésus donnait son enseignement, qui, signalons-le, est un enseignement plein d'autorité, c'est ce qui est dit. Alors, pendant l'enseignement, pendant la séance, dans l'assistance ou dans l'assemblée qui assistait, il y avait une personne qui n'était pas au départ visiblement possédée. Il était là comme tout le monde. Et tout à coup, au fur et à mesure qu'il écoutait Jésus parler, le démon en lui ne pouvait plus se cacher. Plus il entendait la parole, plus le diable ne pouvait plus se dissimuler. En d'autres termes, nous pouvons voir clairement ce que ça veut dire. Jésus avait enseigné avec autorité, et c'est cette parole qui dévoile tout, même le diable qui était présent. Les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas vides, creuses, comme ceux des scribes, parce que les scribes, ils ne font que répéter ce que dit la parole. Parler pour rien dire, comme on dit. Et la réflexion qui a été lancée par les Juifs, en constatant la grande différence entre Jésus et les scribes, me fait aussi rappeler une situation dans les évangiles. Rappelez-vous, lorsqu'un père de famille avait apporté à Jésus son enfant qui était possédé par le diable. C'est dans Marc chapitre 9, versets 17 à 18. Je vais vous lire ce passage. « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. » Ou qu'il se laisse, qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Et j'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'en ont pas été capables. Regardez bien ici, il n'est pas question de capacité comme ils croient ou d'incapacité, mais c'est pour montrer que Jésus est réellement la parole incarnée. Il est la parole. Et c'est plus que normal de voir que son enseignement a de l'autorité, parce qu'il est le Verbe incarné, il est le Logos, il est la parole de Dieu, la parole créatrice. tandis que les scribes ne sont que des répétiteurs de ce que la loi dit. Néanmoins, nous devrions réfléchir un peu sur la nature de l'enseignement prêché dans nos églises, dans les différentes églises. Il faut se faire une auto-évaluation. Il ne suffit pas de crier à haute voix dans certaines églises, faire du spectacle, faire du show pour dire que la parole, elle est vivante dans cette église ou pas. Ce n'est pas en fonction de la manifestation. Ne nous trompons pas aussi que l'efficacité de la parole ne dépend pas du style du prédicateur, du style qui a été adopté en maîtrisant par exemple les techniques de la rhétorique, quelqu'un qui est éloquent, quelqu'un qui a du charisme. Non. Peut-être que le prédicateur a une facilité de parler, peut-être qu'il a un charisme phénoménal qui admire l'assemblée, qui capte l'attention des foules. Oui, ça existe. Mais son efficacité n'est pas dans le résultat, n'est pas dans le nombre de personnes qui l'écoutent, n'est pas dans l'admiration des gens qui l'écoutent. Mais l'efficacité de la parole, c'est dans l'impact que cela apporte dans la vie des personnes qui l'écoutent. Et loin du regard, quand il rentre chez lui, quand il rentre dans la vie de tous les jours, c'est là que la parole se montre s'il a été efficace ou pas. Tout le monde peut applaudir, tout le monde peut dire alléluia, tout le monde peut pleurer, mais ce n'est que de l'émotion. Mais c'est une fois que la cloche sonne, que tu rentres chez toi, et c'est là que cette parole œuvre en toi et change ta vie, c'est là que Dieu montre que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole qui te change. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les prédicateurs, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les pasteurs, c'est la parole. Et la parole, elle est autosuffisante. C'est dans le secret, loin des regards de tout le monde, et ça, nous ne pouvons pas l'évaluer. Car Dieu et la personne concernée seule le sait. Ça se voit avec ce démoniaque. Pendant que Jésus parlait, personne ne lui a touché. Jésus n'a même pas mis la main sur lui. Tout à coup, il s'est levé. Voilà l'impact de la parole. Rappelez-vous aussi l'histoire d'Élie. Élie qui se cachait de Jézabel à Horeb dans une grotte. Quand l'Éternel passait, j'aime bien cette histoire, dans 1 Rois chapitre 19, versets 11 à 13. 1 Rois 19, 11 à 13. Écoutez bien ce passage. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Donc le Seigneur allait se manifester à Élie. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, se fit un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix tenue. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et se courba devant l'Éternel. Vous voyez cette belle image ? Le vent, tremblement de terre, feu, la voix de Dieu n'était pas dedans. Ce ne sont que des préludes, on va dire, les préludes de la voix de Dieu. À vrai dire, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, ni dans le vent, car l'Éternel se manifestait, rappelez-vous aussi à Moïse, sur la montagne, dans le vent, le tremblement de terre, dans le feu. Mais pour ne pas faire une fausse compréhension de ce qui est dit dans ce texte, ce que l'auteur veut dire, les tremblements de terre, le vent, n'étaient qu'une sorte de prélude. Ce n'est pas ça la vraie voix de Dieu. C'est ce qui prépare le terrain, on va dire. Ce que vous entendez ici n'est que le prélude. Mais quand vous allez quitter cette pièce, c'est là que cette voix calme, que tu ne l'entends pas, mais qui œuvre en toi, c'est là qu'il va te remuer, te bousculer, te faire réfléchir. Et il ne va pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu aies compris ce qu'il voulait te dire. Et c'est ça qui est magnifique avec la parole de Dieu. C'est après qu'il œuvre. Tout ce que nous entendons, la musique, les lectures, tout ce que nous faisons aussi, ce sont que les tremblements de terre. ce sont que les feux, ce sont que le vent qui nous secoue, qui nous prépare. Prépare-toi, tu vas entendre Dieu. Et une fois que tu es bien réveillé, c'est là qu'il te parle, dans une voix très calme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et telle est l'image de la parole de Dieu. Elle est douce, elle est calme, mais puissante, bouleversante, a un impact inimaginable. Et pour résumer tout ce qui a été dit, je reprends deux références bibliques. La première, dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 21 et 22. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur, en parlant de la parole. Il apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Et la deuxième, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu, elle est vivante, agissante, puis acérée, qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. » C'est ça la parole. Cette parole qui arrive jusqu'à la jointure des moelles, vous imaginez, c'est une précision chirurgicale. Là où personne ne peut entrer, même toi, tu n'arrives pas à aller là, la parole, elle arrive jusque-là et va te secouer. Que le Seigneur œuvre en toi après cette prédication. Amen.